La revue de presse internationale.
Avec vous, Jenny Raflick, bonjour. Vous êtes historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise et vous avez notamment publié « Terrorisme et mondialisation, approche historique » aux éditions Gallimard. Voici donc votre revue de presse internationale.
Oui, c'est pas tout à fait une revue de presse. Mais cette semaine, l'otage franco-tunisienne Noura Nouas a été libérée au Yémen. Employée du CICR, elle avait été enlevée par les rebelles Houthis le 1er décembre 2015. La nouvelle de cette libération est tombée en même temps que l'annonce de la formation d'un gouvernement de salut national Houthi dans le nord du pays, avec Sanaa pour capitale. Constitue le pendant rebelle du gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi, qui contrôle le sud du pays autour d'Aden.
Cela signifie-t-il que la situation se stabilise au Yémen, Jenny Raflick ?
Malheureusement non, puisque depuis la suspension en août des négociations de paix menées sous l'égide de l'ONU, le Yémen a de nouveau sombré dans la guerre. Cette semaine, toujours, après le bombardement d'un navire des Émirats par les rebelles Houthis, la coalition militaire conduite par l'Arabie Saoudite a bombardé des navires de la rébellion en accusant les Houthis de mener des, je cite, « attaques terroristes contre les bateaux de secours en mer Rouge ».
Et alors comment en est-on arrivé là ?
Alors, plusieurs éléments. En premier lieu, le Yémen n'est unifié que depuis 26 ans. Et encore, il ne l'a été, de 1990 à 2011, que par la volonté politique du président Ali Abdallah Saleh. Chassé du pouvoir dans la foulée du printemps arabe, il a été remplacé par son ancien vice-président, Abd Rabo Mansour Hadi, seul candidat à l'élection présidentielle de 2012, mais reconnu par la communauté internationale. Deuxième élément, actif dans le nord du pays depuis 2004, la rébellion Houthi a profité de l'affaiblissement du pouvoir central pour lancer une offensive sur la capitale, Sanaa, fin 2014. Ces rebelles se présentent comme les défenseurs des déshérités et comme les représentants de la population chiite, 40% des yéménites, mais majoritaires, dans le nord. En 2015, ils ont pris Sanaa, chassé le président. Ce dernier s'est réfugié en Arabie Saoudite, laquelle a pris en mars de la même année la tête d'une vaste coalition militaire pour combattre la rébellion.
Et alors, est-ce qu'il y a derrière ce conflit des enjeux dissimulés ?
Alors, le premier enjeu est national. Le Yémen est historiquement divisé entre le nord et le sud. De la chute de l'Empire ottoman jusqu'en 1962, le nord a été dominé par une dynastie de confession chiite. Au sud, le port d'Aden et son arrière-pays sont restés sous protectorat britannique jusqu'en 1967, date à laquelle est proclamée l'indépendance de la République démocratique populaire du Yémen du Sud, un régime d'inspiration marxiste dans la zone d'influence soviétique. Sur ces divisions se grèvent des pressions extérieures. On le voit d'ailleurs dès 1962, puisque lors de la proclamation de la République, une guerre civile oppose les monarchistes soutenus par l'Arabie saoudite aux républicains aidés par l'Égypte nassérienne. C'est la fin de la guerre froide qui permet la réunification en 90, mais sans faire disparaître les influences, tribales notamment, et l'opposition nord-sud qui s'exprime aujourd'hui clairement par la coexistence de deux gouvernements, l'un à Sanaa, l'autre à Aden. Le deuxième enjeu est régional, du fait des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, rivales pour de multiples raisons. Opposition entre sunnisme et chiisme, entre monarchie et république, influence arabe et persane, et rivalité économique, notamment à propos du pétrole. C'est ainsi que l'Arabie saoudite a mis sur pied une coalition pro-gouvernementale rassemblant une dizaine d'États avec le soutien des États-Unis. De son côté, l'Iran soutient les Houthis, mais d'une façon moins officielle, plus ambiguë. Sans surprise, facteur clé de l'ingérence étrangère, l'argument de la lutte antiterroriste est repris par les deux camps.
Alors cet argument, bon, on a bien compris qu'il était en partie tactique. Jenny Raflick, est-il toutefois complètement infondé ?
Non, parce que l'implantation d'Al-Qaïda au Yémen est ancienne. Évidemment, rappelons que Ben Laden était yéménite. Cette présence a contribué à internationaliser le conflit. ACPA, la branche locale d'Al-Qaïda, a attaqué l'ambassade américaine à Sanaa en 2008 et revendiqué des attentats contre navires occidentaux, en par exemple le pétrolier français, le Limbourg. Nous savons aussi que les frères Kouachi étaient passés par des camps d'entraînement situés au Yémen. Désormais, l'État islamique rivalise avec ACPA, tous deux profitant des villes laissées par la guerre. Aussi évoque-t-on de plus en plus la possibilité d'un califat de substitution au Yémen en cas de défaite lourde de l'État islamique en Syrie ou en Libye. Et le tout est connecté à un troisième enjeu, à savoir la sécurité des routes maritimes et notamment la circulation sur le détroit de Bab el-Mandeb, quatrième point de passage pour le trafic pétrolier mondial. Les forces pro-gouvernementales ont repris le contrôle de l'entrée du détroit l'automne dernier, mais les rebelles demeurent maîtres de presque toute la côte et de pans de territoire autour de Sanaa.
Et pour autant, aujourd'hui, Jenny Raflick, l'urgence semble être la crise humanitaire.
Alors effectivement, le conflit a fait sans doute plus de 7000 morts, déplacé au moins 3 millions de personnes depuis mars 2015. Aujourd'hui, plus de 19 millions de personnes manquent d'eau potable, d'infrastructures sanitaires. Plus de la moitié des Yéménites souffrent de malnutrition. 7 millions se trouvent dans une situation d'urgence alimentaire absolue. Ajoutons les conséquences des bavures de la coalition saoudienne, à savoir les bombardements de quartiers, quartiers résidentiels, d'hôpitaux, d'écoles, régulièrement dénoncés par les organisations humanitaires et l'ONU, l'ONU qui n'a pas hésité à parler de crimes de guerre. Les rebelles ne sont d'ailleurs pas en reste, eux aussi ont bombardé des zones civiles. Outre les victimes directes de ces bombardements, leurs effets indirects, disparition des infrastructures publiques et notamment de santé qui aggravent la situation humanitaire dramatique. On ne peut dans ce contexte que s'étonner du relatif silence des dirigeants, des médias occidentaux. J'étais frappée en préparant cette chronique de constater que l'expression la plus souvent accolée dans les médias français au Yémen est celle de « guerre oubliée », signe que l'on a conscience du problème. Alors pourquoi ne pas en parler davantage ? La véritable explication est sans doute politique. Sommes-nous bien à l'aise face à un conflit dont les victimes civiles sont en grande partie celles d'une coalition d'États, officiellement nos alliés, auxquels nous vendons des armes ? Le silence occidental traduit sans doute de la gêne, mais peut-être est-il également un peu coupable.